Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen.
ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations, le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, avant que j'oublie, attention, mercredi prochain, il n'y aura pas de cours, parce que c'est ma semaine de mission mensuelle dans le nord de la France, donc toujours aux mêmes endroits. Je vais d'abord près de Pont-Audemer, dans Normandie, puis Alençon, puis près de... Je vais aussi visiter des malades, près dans la Manche, puis près de Saumur, pardon, dans Touraine plus exactement, et puis après je vais à Nantes et je reviens en passant par Agen pour voir plusieurs malades sur la route. Donc pas de cours mercredi prochain à cause de ça. Le prochain cours aura lieu, je crois que c'est le 11 décembre. 11 décembre. Alors nous sommes à la fin de cette petite encyclique qui est une petite perle. Acerbo Nimis, enseignement à la doctrine chrétienne, Saint Pédis, 15 avril 1905. Bon. Pourquoi j'ai dû expliquer pourquoi j'ai pris cette petite encyclique comme conclusion de tout ce travail que je vous essaie de vous transmettre sur le modernisme, parce que un des moyens les plus efficaces de lutte contre le modernisme, c'est l'étude. Rappelez, l'étude. Besoin d'étudier, Saint Pini se dit expressément à la fin de son encyclique, on a déjà vu tout ça, à la fin de Pascendi Dominici Gregis de septembre 1907, il explique qu'un des moyens de lutte contre le modernisme, c'est l'étude, surtout l'étude de la philosophie et de la théologie de Saint Thomas d'Aquin. N'oubliez pas ces deux vérités essentielles, les deux amours qu'il ne faut jamais perdre, l'amour de la prière et l'amour de l'étude qui sont étroitement unis. Ça veut dire quoi? J'ai déjà expliqué ça dimanche dernier en sermon. Donc, si je perds l'amour de la prière, je vais perdre l'amour de l'étude. Si je perds l'amour de l'étude, je perds l'amour de la prière. C'est comme les deux doigts d'une même main, si vous voulez. Et on perd pas l'amour de la prière et l'amour de l'étude comme ça en 5 minutes. Le démon prend son temps parce qu'il est patient. Il a tout le temps avec lui. Et le démon va travailler d'abord pour nous faire diminuer notre amour de l'étude, pour pouvoir obtenir la diminution de l'amour de la prière. Et quand on commence à lâcher l'étude, eh bien, on va finir par lâcher la prière. Il y a un lien étroit entre les deux choses, ça c'est absolument fondamental à comprendre. Surtout pour les prêtres. Quand on étudie un petit peu la raison de l'abandon pratiquement total de la foi en France autour des années 60, après la mort du pape Pie XII, ça vient de là, ça vient de l'abandon de la prière, l'abandon de l'étude, surtout de la prière du prêtre. La prière du prêtre par excellence, c'est le bréviaire. Le bréviaire a été abandonné, l'abandon de l'étude, plus d'études de la somme théologique de Saint Thomas, malgré les conseils très précis sur le sujet donnés par le pape Saint Pie X. Et si je perds l'amour de la prière et l'amour de l'étude, eh bien, j'ai la porte ouverte à l'apostasie. Alors, je reprends rapidement les derniers points que nous avons vus ensemble la dernière fois. justement sur ce sujet-là, Saint Pédis explique que certains prêtres, désireux de diminuer leur besogne, voudraient se persuader que le sermon du dimanche peut tenir lieu de catéchèse. Il suffit de réfléchir pour voir que c'est une erreur. Aujourd'hui, justement, dans la conclusion de cette encyclique de Saint Pédis, donc Acerbo Nimis, Saint Pédis va aller aux choses pratiques, donner des conseils pratiques aux curés. Et je peux vous assurer que ce qu'il dit pour les curés est valable aussi pour nous. Voilà ce que disait Saint Pédis. On a déjà vu ces textes, je les répète rapidement. La tâche du catéchisme consiste à prendre pour sujet une vérité qui se rapporte à la foi ou à la morale chrétienne et à la mettre en lumière sur toutes ses faces. Mais comme le but de l'enseignement doit être la réforme de la vie, le catéchiste comparera ce que Dieu commande de faire et ce que les hommes font dans la réalité. C'est-à-dire, ça sert pas grand-chose d'étudier si cette étude n'entraîne pas une réforme de vie. On étudie le catéchisme pour le mettre en pratique. D'accord ? T'écoutes, maman ?
Oui,
non, c'est pas dormir.
Bon. Papa, j'écoute.
Bon, donc le but de l'enseignement, le but de l'étude, c'est la réforme de vie. Ça encore, le but de l'étude, c'est la réforme de vie. On n'étudie pas simplement pour devenir plus intelligent. On n'étudie pas pour étaler sa culture. Le but de l'étude de la doctrine chrétienne, puisque c'est le but de le sujet de cette encyclique, le but de l'étude de la doctrine chrétienne, c'est la réforme de vie personnelle. Et qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour vivre en état de grâce? Vous pouvez connaître par cœur tous les commandements dans l'ordre et dans le désordre, ça vous sert strictement à rien si vous ne vivez pas selon ces commandements. Bon, n'oubliez pas qu'on est actuellement en début d'avant, nouvelle année liturgique qui vient de commencer dimanche dernier, et donc il faut utiliser ce temps d'avant pour voir ce qu'il faut changer dans ma vie de tous les jours. Saint Pédis donc explique les détails, dit qu'il faut régler notre conduite, détester et fuir les vices pour nous faire suivre le chemin de la vertu. Bon. Et ensuite il explique, je reprends les textes que j'ai cités la dernière fois, le pape Saint Pédis demande aux gens de faire extrêmement attention à ne pas chercher à entendre des discours élégants de ces prédicateurs qui sont accueillis par les applaudissements d'un auditoire très nombreux et qui n'aboutissent qu'à chatouiller les oreilles sans remuer les cœurs. Si un sermon n'a pas pour but de nous faire pratiquer la réforme de vie, j'ai perdu mon temps en tant que prédicateur. Le sermon du dimanche doit nous aider à changer de vie. D'accord ? Si l'on ne saurait attendre une moisson d'une terre qui n'aurait pas reçu de semences, comment espérer des générations ayant de bonnes mœurs si elles n'ont pas été à temps instruites dans la doctrine chrétienne? De là, nous devons conclure que si la foi s'est alanguie de nos jours au point d'être presque mourante chez beaucoup, c'est que le devoir de l'instruction religieuse est accompli trop négligemment ou complètement omis. Cette semence divine ne monte pas, ne pousse pas de fortes branches, elle est abandonnée à elle-même et réduite à n'agir que par une sorte de vertu innée. C'est-à-dire que, encore une fois, l'arbre est jugé à ses fruits. Et c'est beaucoup plus important que vous ne le croyez, parce que c'est ça qui explique la catastrophe d'aujourd'hui. Donc l'enseignement de la doctrine chrétienne est l'institution utile entre toutes pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Donc, attention pour tous ceux qui m'écoutent, je vous demande de faire attention à ce détail qui en fait n'en est pas un. Ne pas considérer que le catéchisme c'est quelque chose pour les enfants. Je maintiens que supposait un prêtre qui n'ait pas le temps de faire le catéchisme pour les enfants, le catéchisme pour les adultes, pour les parents, je dirais que de se focaliser d'abord ce catéchisme pour les parents. Parce que si on a les parents, on aura les enfants qui vont suivre. Par contre, si on a les enfants qu'on n'a pas les parents, les enfants ne vont pas suivre la foi catholique pendant longtemps. Alors, la grande difficulté, c'est que nos âmes sont devenues totalement vides. Pourquoi ? Je voudrais vous citer un texte qu'on m'a envoyé, un texte que j'avais déjà lu il y a longtemps, écrit par un des plus grands esprits de ce dernier siècle. C'est un texte, une partie d'un discours d'Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn, un russe, donc, qui a émigré aux États-Unis et qui a fait une conférence. Je pense que ce texte vient de la conférence qu'il avait faite à Harvard. Donc, c'est une conférence qu'il avait faite aux États-Unis, si mes souvenirs sont exacts, j'ai oublié de vérifier la date. Il avait fait une conférence aux professeurs et aux étudiants d'une école, université supérieure. Et voilà ce qu'il leur dit. Écoutez, c'est extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire que ce texte est écrit par quelqu'un qui n'a pas la foi catholique. À ma connaissance, Alexandre Solzhenitsyn était orthodoxe, n'était pas catholique, russe orthodoxe, et je ne sais pas s'il est mort orthodoxe ou s'il a pu se convertir à la foi catholique avant de mourir. Je ne sais pas. Mais voilà ce qu'il disait. Écoutez bien, parce que ça recoupe exactement ce que dit Saint Pie. Vous, en Europe, disait Alexandre Solzhenitsyn, vous êtes dans une éclipse de l'intelligence. Vous allez souffrir. Le gouffre est profond. Vous êtes malade. Vous avez la maladie du vide. Le système occidental va vers son état ultime d'épuisement spirituel. Le juridisme sans âme, l'humanisme rationaliste, l'abolition de la vie intérieure. Toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures. Elles ont oublié que le premier devoir de l'homme, c'est le droit de ne pas encombrer son âme avec des futilités. Cependant, le gouffre s'ouvrira à la lumière. Des petites lucioles dans la nuit vacilleront au loin. Il y aura des hommes qui se lèveront au nom de la vérité, de la nature et de la vie. Ils exerceront leurs enfants à penser différemment, à remettre l'esprit au-dessus de la matière. Ils briseront la spirale du déclin du courage. Ainsi viendra l'éclosion des consciences dressées. Aujourd'hui, les dissidents sont à l'est, ils vont passer à l'ouest. Oui, c'est un texte qui, à mon avis, est très important. Donc, Alexandre Solzhenitsyn a compris que le démon a provoqué la disparition, la mort de la vie intérieure. De même que le corps a besoin d'une nourriture physique pour pouvoir se maintenir en bonne santé, de même l'âme, qui est la forme du corps, a besoin d'une vie intérieure pour se maintenir en bonne santé spirituelle. Et le démon va tout faire pour abolir la vie intérieure. La vie intérieure, c'est la vie de l'âme. Donc le démon va nous pousser à ne nous occuper que de la vie du corps et oublier complètement la vie intérieure qui est la vie de l'âme. J'aime bien aussi la façon dont Solzhenitsyn explique les choses. Ces âmes modernes ont oublié que le premier droit de l'homme, c'est le droit de ne pas encombrer son âme avec des futilités. C'est exactement ce que fait le démon aujourd'hui, surtout avec les jeunes. Encombrer, je vous l'ai déjà dit d'une autre façon, moi j'ai pas les belles phrases de Solzhenitsyn, mais le démon a parfaitement compris ça, d'encombrer l'âme avec des choses superficielles pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses importantes. Oui. Et donc qu'est-ce que va faire le démon? Il va mettre le bon Dieu dehors, et comme la nature a horreur du vide, dès que le Dieu a quitté une âme, ça fait un vide dans l'âme. Eh bien, le démon va remplir cette âme avec des futilités. Là, par exemple, je pense à tous les jeux vidéo et toutes ces bêtises pour lesquelles les gens consument leur âme, consument leur intelligence et consument leur argent. Donc, trois choses importantes dans ce texte. Il parle de l'abolition de la vie intérieure, dont nécessité de reprendre une vie spirituelle pour arriver à tenir le coup, à faire vivre notre âme. Notre âme a besoin d'une nourriture. Elle a besoin de prière. Et donc, comme la prière ne peut pas exister en soi, strictement parlant, sans un minimum d'études, il y a besoin de l'étude pour conserver la vie de prière. Et donc, la vie de prière, ça sera évidemment d'abord et avant toute chose la méditation, l'oraison pour ceux qui savent méditer ou qui veulent apprendre avec les exercices de Saint Ignace, aussi le chapelet. Donc, gardez votre chapelet, gardez une vie intérieure pour pouvoir arriver à mettre le démon dehors. Deuxième chose importante, n'encombrez pas votre âme avec des futilités. En ce début d'année liturgique, puisqu'on arrive au temps de Noël, commencez à faire un examen de conscience, mes bien chers frères, pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Commencez à faire un examen de conscience pour arriver à comprendre que notre âme meurt si elle est encombrée de futilités. Est-ce que mon âme est encombrée de choses secondaires? Est-ce qu'il y a de la place pour les choses principales? Tout ça va m'aider. Si je remets une vie intérieure dans mon âme, je vais retrouver du courage pour arriver à mettre le démon dehors, parce que c'est un combat, ce qu'on appelle le combat spirituel. Malheur à ceux qui ne veulent pas briser cette spirale dont parle Solzhenitsyn, spirale du déclin du courage. Bon, j'ai trouvé ce texte intéressant. Peut-être que vous pourriez essayer de le retrouver son intégralité sur Internet. Je crois que, j'ai pas eu le temps de chercher, mais je suis pratiquement sûr, encore une fois, ce texte est un texte, une partie d'un texte qui doit s'intituler, si je me rappelle correctement, le discours d'Harvard, H-A-R-V-A-R-D, l'université, je crois que c'est une université américaine. Donc, étudier. Alors, revenons maintenant à Saint Pédis, donc l'encyclique de 1905. N'oubliez pas qu'il a écrit son encyclique de condamnation du modernisme en 1907, donc on est 2 ans avant, même plus de 2 ans avant, puisque nous sommes au 15 avril 1905. Je vais vous lire tout ce que Saint Pédis demandait au curé. Bon. D'ailleurs, c'est ahurissant. Voilà ce que Saint Pédis, en 1905, demandait au curé. Les curés n'ont pas fait ce travail. Dans leur immense majorité, résultat des courses, ben, allez dans les églises modernes et voyez le résultat des courses. Voulant donc, dit Saint Pédis, vénérable frère, satisfaire à ce très grave devoir du suprême apostolat et assurer partout, pour une pratique si importante, une seule et même méthode de notre autorité suprême, nous établissons et ordonnons expressément ce qui suit pour être observé et exécuté dans tous les diocèses. Donc il parle aux évêques, mais en fait vous allez voir, c'est surtout au curé qu'il va s'adresser. Et c'est pas un conseil, nous établissons et ordonnons expressément. C'est donc un ordre du pape Saint Pédis de suivre les points suivants. Il y a 6 points, je vais d'abord vous les lire tous ensemble, pour vous montrer un petit peu l'intégralité, pour faire comprendre en un coup d'œil, si vous voulez, tout ce que Saint Pédis demandait en 1905, et ensuite j'expliquerai les points. Premier point, que tous les curés, en général tous ceux qui ont charge d'âme, ça c'est aussi les parents, au jour du dimanche et des fêtes de l'année, sans en excepter aucun, pendant une heure entière, enseigneront d'après un petit livre de catéchisme aux enfants des deux sexes ce qu'ils doivent croire et pratiquer pour faire leur salut. Premier point, une heure de catéchisme pour les enfants une fois par semaine.
Une fois
par semaine. Bon. Deuxième point, de plus, à des époques fixes de l'année, ils prépareront les garçons et les filles pour une instruction faite plusieurs jours de suite, à bien recevoir les sacrements de pénitence et de confirmation. Sacrement de pénitence est certainement dans la pratique, je dis bien dans la pratique, le sacrement dont on a le plus besoin dans le monde moderne. Vous allez me dire, on a aussi beaucoup besoin de la Sainte Eucharistie. C'est vrai, mais le sacrement de pénitence a une importance toute particulière parce que c'est un acte d'humilité. Savoir se mettre à genoux devant un prêtre, qui est un homme comme vous, et lui dire bénissez-moi mon père parce que j'ai péché, c'est pas évident du tout. Donc c'est un acte de foi d'abord. C'est un acte de foi parce que je crois, par ma foi catholique, que cet homme devant lequel je me mets à genoux, à qui je dis bénissez-moi mon père parce que j'ai péché, je crois que cet homme est prêtre et qu'il a reçu de Dieu, par son ordination sacerdotale, le pouvoir de pardonner les péchés. Donc c'est un acte de foi. C'est aussi un acte d'espérance. C'est-à-dire je me confesse parce que j'ai espérance de ne plus retomber et que j'ai espoir de changer de vie pour arriver à suivre davantage notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, c'est un acte d'amour du bon Dieu. Donc c'est un acte de foi, d'espérance et de charité. Il y a tout dans la confession. Pour ça que je pense que dans la pratique, j'ai bien dans la pratique, c'est certainement le sacrement le plus important.
Et la confession ?
La confession. Ça commence sacrement le plus important et on voit très bien que c'est ce sacrement-là qui a pratiquement complètement disparu dans l'Église moderne. Les prêtres modernes, quand je leur en parle, ils me disent, monsieur l'abbé, on ne confesse plus du tout. On confesse pratiquement plus quelques vieilles personnes autant juste avant Pâques. Point barre, c'est tout. Vous voyez? Et on se rend très bien compte. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, surtout pour encourager les parents qui m'écoutent, qui sont un peu découragés avec leurs grands adolescents. Quand les parents me disent, monsieur l'abbé, mon adolescent qui a 16-17 ans, mon adolescente de 16-17 ans, elle a de plus en plus de mal à prier. Bon. J'ai l'impression qu'elle est en train de perdre la foi. La première question que je vais poser est la suivante. Est-ce que votre adolescent ou votre adolescente se confesse encore librement? C'est-à-dire que par lui-même, par elle-même, ils vont au moins une fois par mois se confesser à un prêtre de leur choix. Si les parents me disent « Oui, monsieur l'abbé, il continue de se confesser ou elle continue de se confesser une fois par mois à un prêtre », évidemment, vérifiez que c'est un prêtre sérieux, pas n'importe quoi, pas un prêtre qui va leur dire « Ne vous inquiétez pas, le bon Dieu vous aime, alléluia, vous pouvez continuer de vivre comme ça ». Bon, je parle d'un prêtre qui a la foi catholique et qui va leur donner les conseils pour les aider à sortir du péché et vivre dans la vertu. Bon. Tant qu'il y a la confession, il y a espoir. Et j'ai remarqué que le signe qu'il faut garder, c'est celui-là. Quand votre adolescent commence à se dégoûter de la confession, rappelez-vous ce que j'ai expliqué dimanche dernier en sermon, ce qu'on appelle l'ascédie spirituelle, quand il commence à avoir la paresse de la confession, ça va entraîner le dégoût de la confession. Si j'ai le dégoût de la confession, je vais vite perdre le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ parce que le dégoût de la confession va entraîner le dégoût de Dieu, le dégoût de prier, le dégoût de Dieu. Et me dégoûtant de Dieu, évidemment, je me dégoûter de tout ce qui me rapproche de Dieu. Troisième point, dit Saint Pédis. De même, avec un soin très spécial, tous les jours du carême, et s'il en est besoin à d'autres jours encore, après les fêtes de Pâques, ils disposeront les jeunes garçons, les jeunes filles, par les leçons et les exhortations convenables, à s'approcher saintement pour la première fois de la Sainte Table. Donc, préparation en confession, préparation à la communion. Quatrième point. Dans toute et chaque paroisse sera établie canoniquement une association dite de la doctrine chrétienne. Par elle, les curés, surtout là où le nombre des prêtres est trop petit, trouveront pour les aider dans l'enseignement du catéchisme des laïcs qui se dévoueront à ce ministère par zèle pour la gloire de Dieu et aussi pour gagner les indulgences que les pontifes romains ont largement dispensées. Donc l'importance, pas simplement de la préparation à la première confession, pas simplement préparation à la première communion, mais aussi préparation à l'enseignement catéchétique. Cinquième point, dans les villes plus considérables, dans celles surtout qui ont des universités, des lycées, des collèges, on fondera des cours de religion pour instruire dans les vérités de la foi et dans les pratiques de la vie chrétienne les jeunes gens qui fréquentent des écoles publiques où la religion ne figure pas au programme. Importance de former surtout les adolescents. Sixième point, et parce que de nos temps, surtout l'âge le plus avancé n'a pas moins besoin d'enseignement religieux que l'enfance, tous les curés et tous les autres prêtres ayant charge d'âme, sans préjudice de l'homélie ordinaire sur l'évangile, qui doit se faire tous les jours fériés à la messe paroissiale, choisiront l'heure qui pourra attirer une assistance plus nombreuse, en dehors de celle qui est réservée à l'instruction des enfants, pour adresser aux fidèles une catéchèse en un langage facile, approprié à leur intelligence.
Approprié à quoi ?
À leur intelligence. Dans ce but, ils se serviront du catéchisme de Trente, catéchisme du Concile de Trente, c'est le catéchisme du Grand Concile, qui a été terminé par Saint Pie V, qui a le Grand Concile de lutte contre le protestantisme. Donc ce qu'on appelle le catéchisme du Concile de Trente. De façon à traiter dans l'espace de 4 ou 5 ans toute la matière du symbole, des sacrements, du décalogue, de la prière et du commandement de l'Église. Vous voyez, là on voit toutes les parties du catéchisme. Vous voyez pas que dans un catéchisme traditionnel, il y a 4 parties. Tout ce qu'il faut croire, c'est l'explication du credo. Tout ce qu'il faut faire, l'explication des commandements. Tout ce qu'il faut demander, c'est l'explication des demandes du Notre Père. Et les moyens de mettre tout ça en pratique, c'est l'explication, cette fois-ci, des sacrements. Vous voyez ? Et c'est intéressant parce que c'est une des rares encycliques où on voit le pape Saint Pie X, un pape, s'adresser directement au curé. L'immense majorité des encycliques s'adressent en fait aux évêques. Donc le style est un peu différent parce que Saint Pie X parle à ce moment-là, les papes parlent à ce moment-là à des gens qui ont déjà une bonne culture philosophique, une bonne culture théologique. Il s'est parlé au curé, simple curé, pour dire voilà votre devoir d'État. Oui. Donc je vais reprendre un petit peu ça. Parce que ce qu'il dit pour les curés, aujourd'hui, on peut le dire pour d'autres personnes qui ont charge d'âme, à savoir les parents. Donc, il ne faudrait pas croire que seuls les curés ont charge d'âme. Les parents ont également charge d'âme. Il ne faudrait pas croire que seuls les curés ont l'obligation d'enseigner le catéchisme à leurs enfants. Les parents ont également, sous peine de péché grave, l'obligation d'enseigner le catéchisme à leurs enfants. S'il n'y a, surtout s'il n'y a pas de curé pour faire le travail. Oui, beaucoup de gens qui habitent très loin d'une chapelle traditionnelle n'ont pas de moyen d'aller en semaine sur un cours de catéchisme avec le curé. Et donc, ces gens-là ont l'obligation de donner le catéchisme par eux-mêmes à leurs enfants. De même que vous n'allez pas laisser vos enfants mourir de faim, vous n'allez pas leur
Ouais, mais les adolescents, tu crois qu'ils écoutent les
Et parents. Mais maman, tout le travail est là, justement. Comment l'Église s'est-elle montée pendant 2000 ans? Pendant 2000 ans, vous croyez que les adolescents n'étaient pas aussi rebelles qu'aujourd'hui? Ils étaient aussi rebelles comme malheureusement les adolescents d'aujourd'hui. Bon, certes, cette rébellion ne se manifestait pas de la même façon, ça c'est autre chose, parce que, disons que c'était plus facile au Moyen-Âge, qu'il y avait une ambiance générale qui était catholique, il y avait des curés partout, des bonnes sœurs partout, des écoles partout, c'était l'Église qui contrôlait complètement toute la charité, toute l'instruction, et donc il y avait un bon travail qui était fait. Mais, il y avait aussi cette révolte, n'oubliez pas que les grands révoltés, c'est quand est-ce qu'a commencé cette révolte? Quand a commencé la révolte du monde, si vous voulez, contre l'enseignement de l'Église?
Avec la révolution.
Bien avant. Cette révolte, elle a commencé avec ce qu'on appelle avec le 14e siècle. Le 14e siècle, c'est après la mort de saint Thomas d'Aquin. On dit que saint Thomas d'Aquin est mort en 1274. Après, c'est l'humanisme qui est arrivé. Hein? L'humanisme du 14e siècle, c'est cet humanisme, par exemple, qu'on voit très bien chez par exemple François Ier. Au 14e siècle, c'est l'humanisme qui va introduire, qui va commencer déjà à remplacer Dieu par l'homme. C'est dès le 14e siècle. Saint Thomas est mort en 1274, fin du 13e siècle, c'est une date qu'il ne faut jamais oublier. Et immédiatement après, avec l'arrivée du 14e siècle, c'est le début de la Renaissance. La Renaissance ou l'humanisme, c'est la même chose. La Renaissance et l'humanisme, c'est l'adoration de l'homme. L'homme commence à prendre la place de Dieu. Et cet humanisme, c'est le début de la révolte. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des révoltes aussi avant, mais beaucoup moins, parce que les gens étaient nettement plus intelligents qu'aujourd'hui. Il faut bien avouer ce qui est.
Donc ils étaient plus intelligents.
Oui, ils étaient plus intelligents. Parce qu'ils
avaient des exemples.
Ils avaient plus d'exemples de saints, des parents catholiques, mais ils étaient aussi beaucoup plus intelligents parce qu'ils n'avaient pas une intelligence qui était complètement détruite par la télévision, les écrans, les téléphones portables, les jeux vidéo et tout ça. Comment voulez-vous qu'un gamin qui passe 6-7 heures par jour en train de jouer avec un téléphone portable ou un jeu vidéo, d'avoir l'usage normal de son intelligence? C'est impossible. Là-haut, dans son crâne, c'est plus une intelligence, c'est la bouillie pour chat. C'est la bouillie pour chat, pourquoi? Parce qu'il ne sait plus travailler. Ils sont incapables de travailler. D'ailleurs, les professeurs dans les écoles nous le disent, surtout les professeurs qui travaillent dans les écoles publiques, nous le disent, mais monsieur l'abbé, le niveau intellectuel a énormément diminué. On arrive à des gens qui arrivent au bac, qui sont incapables de faire une dictée de 20 lignes sans une faute par ligne, minimum. Pourquoi? Parce que justement, ils ont perdu. Je vois tout ça, je vous ai déjà donné, je vous ai souvent déjà parlé. Les jeux vidéo ont fait une catastrophe dans les intelligences parce que ça pousse justement, c'est ce que disait Solzhenitsyn, c'est pour ça que je vous ai lu ce texte, ça pousse les gens à s'encombrer, à encombrer leur âme avec des futilités. Donc on passe des heures à jouer à des jeux vidéo complètement stupides et du coup on n'a plus le temps pour les choses importantes. On ne connaît pas son catéchisme, mais on a le temps de lire tout son journal, maintenant il n'y a plus beaucoup de journaux, on a le temps de regarder les nouvelles sur la télévision, le journal de 20h ou je ne sais pas quoi, pendant des heures et des heures. Vous voyez? Donc je pense que c'est extrêmement important de comprendre ces choses-là. Donc le devoir de formation, le devoir d'éducation, le devoir, comme dit le pape Saint-Pédis, d'enseigner la doctrine chrétienne, relève de tous ceux qu'on charge d'âme. Dans la pratique, aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent sans prêtre.
Sans
prêtre. Il y a des tas d'endroits où il n'y a plus de prêtre du tout. Je vois par exemple ici dans nos campagnes en France, là où je suis à la frontière entre l'Aveyron et le Tarn, il y a des prêtres, des curés qui ont 15 à 20 clochers. Je ne sais pas si vous voyez. Ils ont 15 à 20 clochers. 15 à 20 paroisses dont ils devraient s'occuper. Bon. Quand ils ont une messe dans un de ces clochers, sous un de ces clochers plus exactement, et en général, une messe, ils vont avoir peut-être une messe tous les 2-3 mois dans chaque clocher. Ici, je vois par exemple à la chapelle de Padiès, ici, juste à côté, on a une chapelle, la chapelle Sainte-Germaine de Pibrac, petit village de Padiès. Il y a trois chapelles, Notre-Dame du Tels, Saint-Marcel et Sainte-Germaine de Pibrac. Les trois sont toujours vides. Pourtant, la mairie fait un gros effort pour entretenir ces trois chapelles. Et la mairie a même refait complètement l'église Notre-Dame du Tel, qui a un travail magnifique. Je suis allé voir cette chapelle, qui est splendide maintenant, une chapelle un peu ancienne. Ils l'ont entièrement refait à l'intérieur, repiqué complètement les pierres, jointoyé les pierres. Enfin, très beau travail.
Oui, ici, mais là.
Ici, oui, je l'emmènerai une fois. Malheureusement, ces églises sont vides. Il y a en général une messe pour les enterrements. Quand il y a un enterrement, il y a une messe quand le curé accepte de venir faire la messe d'enterrement, ce qui n'est pas le cas, parce que la plupart du temps, c'est des laïcs qui s'en mêlent, surtout dans les villes. Les laïcs qui font les cérémonies dans les associations, je ne sais plus comment ils appellent ça, les ADAP, les associations en l'absence de prêtres, si vous voulez. L'association en absence de prêtres, c'est-à-dire que c'est des laïcs qui vont donner la communion aux gens, faire un petit laïus.
Donner la communion, c'est bien.
Mais oui, donner la communion aux gens, c'est bien. Encore faudra peut-être se rappeler qu'on ne donne pas la communion à des gens qui n'ont pas l'âme préparée à la recevoir, qu'il faut être en état de grâce pour communier. Bon.
Mais donc, ça regarde pas.
Ben oui, ça regarde les curés.
Ça regarde pas les laïcs, ça regarde.
Mais ça regarde les curés. C'est les curés qui devraient vérifier que les gens sont en état de grâce et que les gens sont disposés à recevoir la communion. Le prêtre n'est pas un distributeur automatique de sacrements. Le prêtre donne les sacrements à des gens, des âmes bien préparées pour les recevoir. Le prêtre n'a pas le droit de donner les sacrements à des âmes qui ne sont pas disposées à recevoir ces sacrements. Il faut donc une
disposition.
Eh bien, il y a tout un travail justement pour disposer. C'est pour ça que Saint-Pilice nous donne toutes ces règles. Disposer l'âme à se confesser, par exemple. La plupart des gens ne savent pas se confesser.
Hein?
Beaucoup de gens ne savent plus se confesser dans l'église moderne. Beaucoup, je le vois très souvent, parce que quand on a des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'église moderne, qui viennent de qui sont habitués à la nouvelle messe, ils nous le disent, monsieur l'abbé, j'ai besoin de faire une bonne confession parce que je me suis confessé uniquement au prêtre moderne et on n'a aucun conseil de leur part. Aucun conseil de leur part. Qu'est-ce que je dois faire pour faire une bonne confession? Je me rends compte qu'ils savent absolument pas se confesser. Ils ont pratiquement jamais appris. Donc il faut apprendre aux gens à se confesser. Premier devoir du prêtre. Il faut apprendre aux gens l'importance de la communion. Et en même temps, apprendre à faire une bonne action de grâce. Tout ça, ça passe par l'enseignement de la doctrine chrétienne. Les gens connaissent plus leur catéchisme. Les jeunes dans les paroisses connaissent absolument plus la catéchisme, ils n'ont pas étudié la catéchisme. Alors les anciens ont fait encore un peu de catéchisme, des gens comme vous, à votre âge évidemment, vous avez 94 ans, vous avez déjà fait du catéchisme quand vous étiez jeune. Vous avez eu une bonne formation chez les religieuses dans lesquelles vous étiez au Maroc, etc. Tout ça, il y a une bonne formation. Mais les jeunes, ils n'ont plus tout ça, ils n'ont plus rien du tout. Moi déjà, les cours de catéchisme que j'avais quand on habitait à Moneto dans Lyon, c'était nul, absolument nul, parce que justement, les curés n'étaient pas intéressés par l'enseignement de la foi catholique. Ils étaient intéressés pour enseigner sur le bouddhisme, sur l'islam, sur les mouvements rock'n'roll, mais la foi catholique s'en fichait complètement. Et donc il y a tout un travail de rééducation à faire. Et rééducation, educere en latin, c'est tirer vers. Tirer de bas en haut. Donc il faut tirer les âmes vers le haut, les ramener vers le bon Dieu. Et c'est pour cela que tous les curés en général, mais aussi ceux qui ont charge d'âme, ont un devoir grave d'enseigner le catéchisme à leurs enfants. Et comme vous dites, que les jeunes n'en veulent plus, c'est justement aux parents d'arriver à trouver le moyen de fermer le catéchisme à leurs enfants. Ça, c'est pas facile. Mais malheur aux parents qui n'ont pas trouvé le moyen de faire aimer le catéchisme à leurs enfants.
Mais ils ne sont pas toujours capables.
Et le bon Dieu donne les grâces, ça fait partie des grâces du sacrement de mariage. Une des raisons pour lesquelles le catéchisme n'est plus enseigné par les parents, c'est que dans bien des cas, malheureusement, dans le monde moderne, les gens ne sont même plus mariés. Ils vivent à la colle, comme ils disent.
Ah Hein?
Ils vivent à la colle, c'est-à-dire ils vivent en concubinage. Ils n'ont pas les grâces du sacrement de mariage, puisqu'ils ne sont pas mariés. Ils vivent en concubinage, pas de grâce au sacrement de mariage. Une des grâces essentielles du sacrement de mariage, c'est les grâces nécessaires pour éduquer les enfants dans la foi catholique. Puisque le but premier du mariage, c'est quoi? Le but premier du mariage chrétien, c'est l'éducation et la procréation et l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, c'est l'éducation de la foi catholique. S'ils ne sont pas mariés religieusement, ils n'ont pas les grâces d'État. Ils n'ont pas de grâce d'État pour vivre ensemble. Ils n'ont surtout pas de grâce d'État pour éduquer leurs enfants dans la foi catholique. Ils en sont incapables. Regardez déjà comme c'est difficile pour des gens qui ont les grâces d'État d'éduquer leurs enfants dans la foi catholique, mais c'est à vous de trouver le moyen. Et encore une fois, malheur à vous, parents, qui m'écoutez sur Internet, ou qui m'écoutez ailleurs, je ne sais pas, qui m'écoutez sur Internet, malheur à vous, si vous n'arrivez pas à trouver un moyen de faire aimer le catéchisme et la doctrine chrétienne à vos enfants, hein, parce qu'ils vont tous perdre la foi, et le bon Dieu va vous poser certaines questions pratiques sur ce sujet le jour où vous allez apparaître devant lui. Parce que le jour où vous allez paraître devant lui, il va vous poser des questions sur ce que vous avez fait des enfants qui vous ont été confiés. Le bon Dieu va vous poser, la question, je vous ai donné, je ne sais pas, 4, 5, 6 enfants, qu'avez-vous fait de ces âmes? Est-ce que vous avez maintenu ces âmes en état de grâce? Je vous les ai confiées, après le baptême, elles avaient une âme en état de grâce, avec le sacrement de baptême, avec le caractère du sacrement de baptême, qu'avez-vous fait de ces âmes? Est-ce que vous vous êtes donné la peine pour apprendre à ces enfants le catéchisme et leur faire aimer le catéchisme? Et c'est possible, il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. Moi, je le vois, en tant que prêtre. En tant que prêtre, c'est peut-être pas très âme ce que je vais dire, mais c'est comme ça que je vois les choses. Le nombre de personnes qui m'ont dit, monsieur l'abbé, en six mois de sermon chez vous, j'ai plus appris qu'en 20 ans avant. Pourquoi ils disent des choses comme ça? Moi, j'en sais rien. Mais c'est ce qu'ils me disent. J'ai entendu ça souvent. Monsieur l'abbé, avant on avait des sermons dans l'église moderne ou dans l'église conciliaire où on n'a parlé rien du tout. Et maintenant que avec vos sermons, j'apprends beaucoup plus. Bon, j'ai commencé à me rendre compte de l'importance du catéchisme, justement, en retrouvant la messe traditionnelle, la messe moderne. Mais c'est pas évident, j'ai pas dit que c'était quelque chose de facile, de faire aimer le catéchisme aux enfants, de faire aimer la messe aux enfants. Mais malheur à vous si vous n'êtes pas capable de faire aimer la messe à vos enfants. Comment vous allez obliger vos enfants et aider vos enfants à assister à la messe tous les dimanches? Parce que le bon Dieu ne nous demande pas d'aider nos enfants à assister à la messe tous les dimanches jusqu'à ce qu'ils aient quitté le nid. Une fois qu'ils ont quitté la maison, c'est là où on va juger l'éducation que vous leur avez donnée. Une fois qu'ils ont quitté la maison, il faut qu'ils continuent le travail. Et notamment qu'ils continuent à se confesser, qu'ils continuent à communier. Donc c'est à vous d'avoir donné à vos enfants, avant qu'ils aient quitté le nid, souvent c'est autour de 20 ans, après le bac, ils vont partir en université ou je ne sais pas trop où. Et si vous ne leur avez pas donné une foi profonde, l'amour de la confession, l'amour de la messe, l'amour du catéchisme, combien de temps ils vont tenir le coup dans une université moderne? 5 minutes. 5 minutes. Et au bout de quelques mois, ils ont tout envoyé promener. Et moi, je le vois constamment, et les parents ne s'en préoccupent pas. J'ai vu des cas ahurissants. De parents qui envoient par exemple leur, je vais déjà un peu citer ces cas, j'ai déjà parlé de ces cas douloureux, j'en ai eu plusieurs comme ça dont j'ai entendu parler, des parents qui envoient par exemple leurs enfants à l'université, qui mettent leurs enfants en chambre universitaire s'il vous plaît, et les parents habitent à 300 km de là, les enfants sont en chambre universitaire pendant toute la semaine, ils reviennent une fois tous les 15 jours, par exemple, à la maison pour prendre un peu l'air de la maison. Et puis les parents posent pratiquement pas de questions, surtout quand on revoit leurs enfants. Et combien de fois un père de famille a eu un peu de bon sens pour aller frapper à la porte de la chambre universitaire de son fils à 9h du soir et à la porte de la chambre universitaire de sa fille à 9h du soir, sans prévenir évidemment, frapper à la porte pour voir si son fils est seul dans la chambre. Moi, j'ai eu des cas comme ça douloureux. Et les parents sont des imbéciles, ils n'ont jamais cherché à vérifier ces choses-là. J'ai eu des cas douloureux où le père de famille a commencé à se rendre compte qu'il y avait anguille sur roche, parce que à chaque fois qu'il téléphonait à sa fille, il se rendait compte qu'il y avait manifestement quelqu'un d'autre dans la maison, quand c'était pas une voix d'homme qui répondait au téléphone. Alors, il a commencé à me poser des questions. Excusez-moi, monsieur, mais qui êtes-vous? Moi, je suis un ami de votre fille. Moi, je vous la passe. À 9h du soir, on dit une jeune fille bien rangée, une jeune fille bien rangée à 9h du soir, pas un homme tout seul avec lui dans sa chambre, hein, ça va pas ça. Beaucoup de parents n'ont pas réagi comme il fallait à ce moment-là, n'ont pas réagi du tout, se sont pas mêlés, et d'un seul coup, au bout de 6 mois ou un an de vie universitaire, le père finit par se rendre compte qu'il y a peut-être un problème. Il débarque à la chambre universitaire un soir pour trouver, je m'excuse des détails, au lit sa fille avec un type. Et se rend compte à ce moment-là que sa fille vit en concubinage avec un gars. Depuis 6 mois, elle n'a même pas prévenu ses parents. Les parents ne sont même pas au courant. Qui est-ce qui est responsable? Les parents. Les parents ont eu le devoir de veiller à tout ça. Ils n'ont jamais fait. Vous voyez? D'où ce devoir pour ceux qui ont charge d'âme. Et encore une fois, je relis le premier paragraphe de Saint-Pédis, sur les conseils pratiques. Tous les curés, en général, tous ceux qui ont charge d'âme, au jour de dimanche et de fête, sans en accepter aucun, pendant une heure entière, enseigneront le catéchisme aux enfants des deux sexes. On peut dire maintenant aux adultes des deux sexes et aux adolescents des deux sexes. Donc, devoir pour ceux qui ont charge d'âme. Il ne faut pas me dire, je sais pas si c'est le travail des curés. Oui, c'est le travail des curés, mais c'est aussi le travail des parents. Les parents, les curés font une partie du travail, mais les parents doivent continuer le travail. Ça sert à quoi, encore une fois, que j'apprenne aux enfants qu'il y a 10 commandements, si les parents ne suivent pas ces commandements à l'école, à la maison? C'est pour ça, faites extrêmement, extrêmement attention. Il y a sur mon site internet une conférence sur les conférences doctrinales. Il y a les lettres doctrinales, les conférences doctrinales. Il y en a une où je commente une lettre magnifique de Mgr Williamson, qui s'appelle « Jeune fille à l'université ». Mettez votre petit orgueil dans la poche et lisez cette lettre à fond. C'est ce que disait Mgr Williamson, il a parfaitement raison. Cette lettre n'a pas pris une ride. Et il explique justement la responsabilité des parents d'envoyer des parents, des enfants à l'université ou apprendre n'importe quoi, et entre autres, ils vont apprendre surtout à perdre leur âme. Ils vont perdre leurs âmes très vite. Donc ça sert à quoi de former des enfants, leur donner des études universitaires invraisemblables, ils ne sont même pas capables de conserver leur âme. Donc ils connaissent par cœur toutes les sciences humaines, ils ne sont même pas capables de connaître leur catéchisme. De quoi ils ont besoin pour aller au ciel? Du catéchisme ou des sciences humaines? Mais du catéchisme d'abord. Donc attention à ça. Les parents qui m'écoutent, faites très attention et ne venez pas me dire ce que j'entends beaucoup trop souvent, c'est impossible aujourd'hui de faire aimer la messe à nos enfants. Eh bien, malheur à vous. C'est à vous de trouver le moyen. Regardez le pape Saint-Pédis, entre autres pour essayer justement de lutter contre le modernisme, une des choses qu'il a faites, c'est de remettre en valeur la croisade des enfants. Il dit il y aura la sainteté chez les enfants. Vous voyez, la croisade des enfants, prie communiste, sacrifie-toi, sois apôtre. C'était la devise, c'était « Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre ». Cette croisade des enfants qui a fait un bien énorme autour des années 1910. Mgr Lefebvre nous en avait parlé au séminaire. Il avait été au séminaire, il est né sous Saint-Pédis, Mgr Lefebvre. Il nous a parlé avec émotion du jour où il a rencontré le pape Saint-Pédis à Rome. Il était allé avec un congrès eucharistique qui s'appelait la croisade eucharistique. Il avait une dizaine d'années, et il allait avec un groupe de la croisade eucharistique de son diocèse, et ils ont rencontré le pape. C'est Saint-Pédis qui leur a parlé justement de la sainteté des enfants. Et c'est ça qu'il faut. Il faut des saints. Il faut des saints. Et sinon, ça voudrait dire quoi? Sinon, ça voudrait dire que Dieu demande l'impossible. Sinon, ça veut dire que Dieu demande l'impossible. S'il n'est pas possible pour des parents de donner à des enfants de 2024 l'amour de la messe, l'amour du catéchisme, l'amour de la confession, ça veut dire que Dieu nous demande des choses impossibles. C'est un blasphème. Dieu donne les grâces. Vous avez les grâces du sacrement de mariage, vous avez les grâces du sacrement de baptême, vous avez les grâces du sacrement de confirmation. Les grâces du sacrement de confirmation, ça fait de nous des soldats. Cela est fait pour se battre. Donc battez-vous. Et c'est pour moi une une joie, extraordinaire. C'est des joies que j'ai très souvent en ce moment, surtout maintenant que la chapelle, avec la grâce du bon Dieu, se développe de plus en plus. De tous ces, ces gens, surtout la tranche d'âge, toujours la même tranche d'âge, mais la tranche d'âge, en gros, 30-40 ans. Des gens qui commencent à venir à la chapelle, qui viennent ou de milieu païen, ou de milieu catholique non pratiquant, ou des gens qui ont pratiqué jusqu'à 20 ans, qui ensuite ont tout envoyé promener pendant 15 ou 20 ans, et qui reviennent maintenant, et qui refont une bonne confession générale, et après une bonne confession générale, ils retrouvent d'un seul coup l'usage de la foi, ils retrouvent le sens de la messe, ils retrouvent le sens de la communion, et ils raccrochent tout simplement le wagon à la locomotive en avant toute. Et on est parti. Et c'est magnifique. Moi, j'avoue que j'ai une grande joie de voir ces choses-là. Actuellement, encore une fois, je suis en train de préparer trois familles qui vivaient sans mariage, qui sont en train de vouloir régulariser leur situation grâce à l'apostolat fait par des amis, des gens qui reçoivent le prêtre de façon habituelle, qui ont commencé à parler à leurs amis d'un prêtre qui vient, qui est en soutane, qui dit encore la messe traditionnelle comme avant, et qui leur a expliqué l'importance de se remettre en grâce avec le bon Dieu. Et on reçoit des coups de téléphone tout simples, tout humbles, et je dirais tout timide en quelque sorte, de gens qui disent: monsieur l'abbé, ben voilà, moi je me suis pas confessé depuis 20 ans, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? Et ma femme, c'est pareil, et les enfants, ben on a oublié de les baptiser, et puis le catéchisme, on a oublié de leur apprendre le catéchisme, alors on veut plus aller à la nouvelle messe parce qu'on s'est rendu compte c'est du n'importe quoi, aidez-nous à raccrocher tous ces wagons à la locomotive. Eh bien, il faut commencer à les aider pour reprendre le chemin de la confession. Première étape, c'est la confession. C'est toujours la première étape. Remettre à la confession. Et souvent, pour arriver à la confession, il faut une étape encore en dessous. Encore une autre étape. Souvent, j'ai remarqué ça, pour reprendre. Quand les gens viennent me voir, vous savez, je ne me suis pas confessé depuis 20 ans. Je fais quoi maintenant? Je n'ai même plus mon catéchisme. Mon catéchisme, je l'ai appris quand j'étais gamin. J'ai tout oublié. Je leur donne catéchisme de Saint Pie X. Vous allez réétudier ça. En 100 pages, vous avez tout le résumé de la foi catholique. En 100 pages, vous avez tout le résumé de la foi catholique. Avec le catéchisme de Saint Pie X, 1910. Après, je leur donne un feuillet en 8 pages.
Quoi ?
Un feuillet de 8 pages que je fais moi-même, que j'utilise pour les confessions générales des retraites. J'ai dit, vous allez faire d'abord une bonne confession générale de toute votre vie. Je leur donne ce feuillet pour qu'ils se préparent. Et ça leur prend parfois une semaine, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois pour qu'ils puissent se préparer sérieusement à la confession. Au bout de trois mois, ils ont commencé déjà à revenir à la messe. Ils ne peuvent pas encore communier. Au bout de trois mois à peu près, parfois un peu moins, parfois un peu plus, ils prennent rendez-vous pour faire une bonne confession générale. Ils font une bonne confession générale et la confession générale rouvre les portes à la grâce du bon Dieu. Mais j'ai remarqué une autre chose, c'est aussi un conseil que je donnerai à tous ceux qui m'écoutent, qui sont dans ce cas-là, parce que je sais qu'il y en a pas mal. Les gens qui m'écoutent et qui sont dans ce cas-là, reprenez le chapelet. Reprenez les 5 dizaines de chapelets, au moins commencez par une dizaine de chapelets. À notre Père, dis je vous salue Marie, le gloire au Père. La très sainte Vierge Marie, quand elle est apparue à l'aube, qu'est-ce qu'elle a demandé? Le chapelet. Quand elle est apparue à la Salette, qu'est-ce qu'elle a demandé? Le chapelet. Quand elle est apparue à Fatima, qu'est-ce qu'elle a demandé? Le chapelet. Partout, elle a demandé le chapelet. On dit que le chapelet, c'est le bréviaire des laïcs. Parce que dans le rosaire, il y a 150 Je vous salue Marie, comme dans le bréviaire, il y a 150 psaumes de David. Donc on appelle ça le bréviaire du laïc. Et donc, le chapelet est fondamental. Et j'ai remarqué que si on arrive, avec la grâce du bon Dieu, à redonner un peu de dévotion mariale, à redonner l'amour de la très sainte Vierge Marie à ces gens-là, j'ai vu ça dans des tas de familles, quand les familles commencent à se remettre au chapelet. Vous n'arriverez peut-être pas à vous remettre d'un seul coup au chapelet complet. Commencez par une dizaine de chapelets. À notre Père, il dit « Je vous salue Marie », ce qu'on appelle une dizaine de chapelets. Commencez par ça, et puis petit à petit, la Sainte Vierge va vous aider à reprendre le chemin de son Fils. Puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Donc le chapelet mène à la confession générale. La confession générale va mener à la communion. La communion après va ramener à l'étude. Parce que il faut prière et étude. Donc il y a la prière du chapelet, la prière de la confession, c'est une certaine forme de prière. Donc il faut prière, étude, sacrement, il faut les trois choses. Il faut prier, il faut étudier, et il faut l'usage des sacrements, surtout le sacrement de la pénitence. Et alors, c'est très beau quand les enfants commencent quand ils sont tout jeunes. Alors, moi, j'ai eu quelques cas de conversion magnifiques avec des gens qui sont revenus vers le bon Dieu après une dizaine d'années de vie commune, parfois de mariage, donc qui ont des enfants, les plus jeunes en 6-7 ans par exemple. Et c'est un plaisir d'aider des enfants de 6-7 ans à venir se préparer à la première confession parce qu'ils ne sont jamais confessés. Dans l'église moderne, ils ne poussent absolument plus les gens à se confesser. Moi, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois, dans les préparations au mariage. Dans les préparations au mariage, c'est abominable parce que les jeunes nous le disent, monsieur l'abbé, on est allé voir le curé pour se marier, il nous a mariés. Je dis, mais est-ce qu'il vous a poussé à faire une bonne confession avant de vous marier au moins, c'est bien le minimum? Non, monsieur l'abbé, il ne nous a jamais parlé de nous confesser avant le mariage. Par contre, il nous a parlé de ne pas oublier de faire un don de 150 euros avant le mariage. Ça, il n'a pas oublié. Mais la confession avant le mariage, jamais un mot. Et ils sont mariés sans confession. Je me suis dit, mais comment voulez-vous avoir reçu les grâces du mariage si la porte de votre âme est fermée à double tour? C'est ce qui s'est passé. Comment voulez-vous? Vous êtes en état de péché mortel, c'est pratiquement sûr si vous ne confessez jamais. C'est très rare d'avoir des jeunes qui sont amoureux l'un de l'autre et qui vivent en état de grâce sans la confession, c'est presque impossible. Et donc, ils se marient, ils n'ont pas la grâce sanctifiante parce qu'ils ne sont pas préparés. Ils vont avoir une communion illicite. On n'a pas le droit de se marier en état de péché mortel. Donc il faudrait avoir une bonne confession. Une bonne confession, ça se prépare. Et c'est très difficile pour ces gens-là. Et j'ai vu des fidèles qui étaient très en colère contre leurs anciens curés, avec raison. En disant, comment se fait-il qu'on ne nous a jamais parlé de ces choses-là? Il y en a qui sont allés voir leur curé. En disant, vous nous avez préparé au mariage. Vous n'avez rien fait pour la préparation spirituelle, vous êtes occupé que des histoires de la cérémonie, des histoires matérielles de la cérémonie et d'avoir une enveloppe le jour du mariage, c'est la seule chose qui vous intéressait. Jamais vous nous avez demandé à venir nous confesser. Résultat, on s'est marié, on n'était pas en état de grâce, on a perdu 10 ans de notre vie. Monsieur le curé, je tiens à ce que vous sachiez que maintenant, avec la grâce du bon Dieu, j'ai trouvé la foi catholique, j'ai retrouvé la foi traditionnelle, j'ai retrouvé le chemin du confessionnal, maintenant on se confesse tous les mois, on a trouvé le chemin. Mais c'est pas grâce à vous. Et sachez une chose, monsieur le curé, plus jamais je mettrai les pieds dans la messe moderne, parce que justement maintenant j'ai compris l'importance de la confession. Vous voyez, c'est là où il y a tout un travail, et c'est ce que dit Saint Pie X. Si Saint Pie X exigeait, n'oubliez pas, nous établissons et ordonnons, dit Saint Pie X. C'est pas un conseil, c'est un ordre. Il demande premièrement à ce que tous les curés et tous ceux qui ont charge d'âme, donc considérez que tous les parents qui ont charge d'âme, parce qu'ils sont parents, qu'ils ont des enfants, ont l'obligation, une heure entière, chaque semaine, d'enseigner le catéchisme à leurs enfants. Bon. S'il y a un bon prêtre qui peut faire ce travail, très bien. Mais même si vous avez un bon prêtre qui fait le travail, il y a le devoir grave des parents de vérifier que l'enfant a compris. Donc il faut, après le cours de catéchisme avec le curé, si vous avez un curé traditionnel, un prêtre traditionnel, il faut que les parents vérifient un peu. Il faut aller voir l'enfant après le retour du catéchisme, et puis pendant le repas du midi qui suit, il faut que les parents demandent à l'enfant, alors, monsieur le curé, de quoi t'as parlé aujourd'hui? De quoi t'as parlé? Et vérifier que l'enfant a compris. Si l'enfant dit, oh, je sais pas, on a fait des petits dessins. Hein? Si l'enfant dit, je sais pas, on a fait des petits dessins, c'est tout ce qu'on a fait pendant les cours de catéchisme moderne, c'est comme ça, hein. Dessinez quelqu'un que vous aimez bien. Alors, on dessine une photo de la maman, on dessine maman, on dessine papa. Mais c'est pas ça le catéchisme. Le catéchisme, c'est l'apprentissage de la foi catholique. C'est pour ça qu'il faut un minimum de par cœur pour que les gens connaissent leur foi. Il faut qu'ils connaissent ce qu'il faut croire, le credo, ce qu'il faut faire, les commandements, ce qu'il faut désirer, la prière, notre Père, et les moyens de te mettre en pratique, les sacrements. Il faut connaître tout ça. Il faut travailler. Donc, premier devoir d'État des parents, donner une heure de catéchisme toutes les semaines à leurs enfants. Il ne faut pas dire que vous n'avez pas le temps. Parce que c'est capital. Est-ce que vous avez le temps de nourrir vos enfants toutes les semaines? Est-ce que vous nourrissez vos enfants tous les jours? Ne me dites pas qu'une mère de famille va me dire, monsieur l'abbé, je n'ai pas le temps, préparer le repas pour mes enfants. Donc ils ne mangent rien. J'ai encore jamais vu de mère de famille comme ça. Bon, les mères de famille comprennent leur devoir d'État, tant ou pas, je dois préparer le repas pour nourrir les corps de mes enfants. Et si vous prenez du temps pour nourrir le corps de vos enfants, vous avez le devoir grave aussi, évidemment, de nourrir les âmes de vos enfants. Première chose. Donc, nécessité du catéchisme. Prenez le catéchisme de Saint-Pédis. Il y a une première partie du catéchisme de Saint-Pédis, ça s'appelle les premières notions, justement pour les parents. Vous avez d'autres livres que vous pouvez utiliser. Là, je m'adresse aux parents qui font le catéchisme aux petits. Il y a d'autres livres. Il y a un très bon catéchisme que j'aime beaucoup. Ça s'appelle le catéchisme de Pringent. P-R-I-N-G-E-N-T, je pense. Le Pringent. J'en ai un exemplaire dans mes affaires ici. Avec le catéchisme, il y a plusieurs niveaux. Avec des images qui étaient très bien faites, qui expliquaient le catéchisme, à peu près une page par dimanche. Pour expliquer un peu le catéchisme aux enfants. Le catéchisme de Pringent, c'était plutôt pour des enfants de 10-12 ans à peu près. Bon. Il y a aussi la miche de pain, l'ancienne miche de pain, surtout la première, qui est introuvable. Mais si moi je l'ai encore, j'ai encore la première miche de pain que vous utilisiez pour donner le catéchisme quand j'étais tout gamin. Hein. Je l'ai toujours dans mon bureau. Bon, et je sais si elle est précieuse. Donc la miche de pain, c'est certainement le meilleur catéchisme pour les tout petits qui ait jamais été fait en France au moins. Il y a 3 volumes, c'est pour les tout-petits, ça commence pour les 4-5 ans, même 3-4 ans, après 4-5 ans, après 5-6 ans, préparation à la première communion. Ça va pour les tout-petits, il y a une image, très simple, et avec quelques lignes à côté, qui est en gros caractère, qui explique l'image. Et donc, à la fois, on peut apprendre le catéchisme, apprendre à lire. Ça, c'est très utile, et c'est excellent, l'esprit est excellent. Malheureusement, ça n'a jamais été réédité tel quel. Je pense que ceux qui ont voulu rééditer la miche de pain se sont bloqués, ont pas pu faire ce qu'ils voulaient à cause des droits d'auteur sur certaines images. Il y a sans doute des droits d'auteur, c'est possible. Mais en tout cas, si vous arrivez à retrouver les anciennes images, il y avait une innocence dans ces anciennes images qu'il n'y a pas. Il y a les nouvelles images de Madame Dabadi qui sont... Je veux pas critiquer ce qu'elle a fait. Elle a fait un bon travail. C'est des belles images. Mais ça n'a pas l'innocence des premières images de l'ancienne miche de pain. Ça n'a pas l'innocence. Il y a quelque chose à voir. Il faut essayer de revenir à ça. Donc, vous avez aussi d'autres livres que vous pouvez utiliser comme la Bible d'une grand-mère. Le catéchisme, il y a Monseigneur de Ségur qui avait fait aussi un catéchisme comme ça très, le catéchisme de la comtesse de Ségur. Il y a des catéchismes qui ont été faits même par Monseigneur de Ségur. Il y a un catéchisme, j'ai plus le titre en tête, qui a été fait par la comtesse de Ségur, qui était de la famille de Monseigneur de Ségur, un grand antilibéral, aussi important que Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, Monseigneur Juin, c'était ces grands défenseurs de la foi catholique. Il y a eu un catéchisme fait par la comtesse de Ségur qui était excellent pour les enfants. Mais n'ayez pas peur de retrouver ces vieux livres. Beaucoup ont été réédités. On peut les retrouver. On peut trouver ces rééditions, entre autres, aux éditions Saint-Rémy à Bordeaux, à Cadillac.
Hein?
Aux éditions Saint-Rémy, ils ont été réédités, ces livres. Donc, travaillez votre catéchisme. Trouvez des moyens de faire aimer le catéchisme. Bon, il y a même des... parfois des petites vidéos qui ont été faites à partir des anciennes images avec un beau commentaire. Moi, j'en ai quelques-unes sur mon ordinateur qui sont pas mal faites du tout pour aider les parents à redonner le catéchisme aux enfants. Et il faut pas aussi, encore un dernier conseil que je donnerai aux parents qui m'écoutent sur ce domaine, c'est que le catéchisme ne soit pas exclusivement l'apanage de la maman. Hein. Il faut que le père s'en mêle. Parce qu'il faut pas que les enfants se disent: moi, j'ai entendu ça souvent des jeunes. Hein. Le catéchisme, c'est pour les gamins. Le catéchisme, c'est pour les filles. Le catéchisme, c'est pour les bonnes femmes. Nous, les hommes, c'est pas pour nous. Mais oui, c'est aussi pour les hommes. Donc, il faut que le père de famille se mêle au catéchisme, surtout des adolescents. L'idéal, sans doute, ça serait que la maman puisse faire le catéchisme aux adolescentes et que le père puisse faire le catéchisme aux adolescents. Faites-vous aider. Allez voir vos prêtres. Dans la tradition, on n'allait pas vous faire aider par les prêtres modernes, donc ça, ils ne vous aideront pas, parce qu'ils se foutent complètement du catéchisme, ça ne les intéresse pas. Bon, le catéchisme moderne n'intéresse pas les prêtres modernes, malheureusement, c'est comme ça. Les prêtres catholiques traditionnels vous aideront dans ces catéchismes. Il y a un catéchisme qui a été aussi pas mal fait, qui a été fait par les sœurs de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis de mon temps, je ne sais pas si ça existe toujours, je pense que ça existe toujours. Elle avait des catéchismes, bon, malheureusement, c'est en union avec, avec l'église de Vatican II, ça c'est une catastrophe, mais étudiez votre catéchisme et trouvez le moyen de faire aimer le catéchisme à vos enfants. Deuxième point. Depuis cette époque fixe de l'année, préparons les garçons et les filles par une instruction faite plusieurs jours de suite à bien recevoir le sacrement de pénitence et de confirmation. Préparation des confessions. J'insiste aussi lourdement là-dessus, et ça j'insiste, que les parents ne fassent pas faire la première communion à leurs enfants sans qu'ils se soient déjà confessés plusieurs fois avant la première communion. Parce que j'ai beaucoup de cas comme ça, où des enfants arrivent à la première communion, ils ne se sont jamais confessés auparavant. Il faut que les prêtres, dans la tradition, ceux qui y en a qui m'écoutent sur Internet, faites attention à ça, aidez ces enfants qui ont 6, 7 ans, qui se préparent à la première communion, déjà 2, 3, 4 mois avant la première communion, commencez à les confesser. Et si possible, confessez-les dans un confessionnal pour qu'ils s'habituent au confessionnal. Que les tout-petits avaient peur à cause du noir, de l'obscurité du confessionnal. En général, ce que je faisais, je m'asseyais dans la partie centrale, sur une chaise, avec l'étole et le surplis, pour qu'ils comprennent bien l'importance de la juridiction représentée par l'étole et le surplis pour le prêtre. Et j'agenouillais l'enfant juste devant moi. En ouvrant la porte, je vous agenouillais juste devant moi. Le petit qui avait 4-5 ans. Il m'est arrivé de confesser des 4-5 ans. Et le petit, s'il est juste devant le prêtre, il n'a pas peur. Et je commence comme ça, jusqu'à ce qu'il ait confiance dans le prêtre. Une fois qu'il a confiance dans le prêtre, je l'amène à côté, je lui montre la partie pour les fidèles. Bon, alors là, il faut qu'il se mette debout pour qu'il puisse, on puisse voir sa tête quand même à travers la petite grille. Et puis, au début, il se confesse comme ça en laissant la porte ouverte. Puis après, petit à petit, il s'habitue. Après, ils aiment bien. Oui, j'ai confessé des enfants qui aiment bien se confesser. Les enfants, ils ont rien contre la confession, au contraire. Et il ne faut pas venir me dire, ce qu'on entend souvent, à 4-5 ans, ils sont beaucoup trop jeunes pour se confesser. Question, est-ce que votre enfant de 4-5 ans est trop jeune pour faire des bêtises? Bon, est-ce que votre enfant de 4-5 ans est trop jeune pour désobéir à ses parents? Est-ce que votre enfant est trop jeune pour dire non quand il devrait dire oui? Bon, s'il n'est pas trop jeune pour faire des bêtises, il n'est pas trop jeune pour se confesser. S'il est suffisamment âgé pour faire des bêtises, il est suffisamment âgé pour se confesser. Et ça, c'est important, vous voyez, ce sont des choses qui sont importantes, donc j'insiste là-dessus, que vos enfants ne se présentent pas à la première communion, bien sûr, souvent qu'est-ce qui se passe? Les prêtres font préparer les enfants à la confession, à la communion, les parents aussi. Et puis, la veille de la première communion, l'enfant va aller se confesser pour la première fois. Juste la veille de la communion. C'est une erreur. Il faudrait qu'il soit déjà habitué à la communion, plusieurs fois auparavant. Et s'ils sont confessés 5-6 fois, ils ont pris l'habitude de la confession. Et si vous donnez des bonnes habitudes de confession aux enfants quand ils ont 4-5 ans, ils vont garder ces bonnes habitudes pendant toute leur vie. Oui. Donc, les aider à les préparer à bien recevoir du pape Saint-Pédit le sacrement de pénitence et de confirmation. La confirmation, c'est une fois. Parce qu'il n'y a qu'une confirmation dans la vie. On peut recevoir le sacrement de confirmation qu'une fois dans sa vie, puisque c'est un sacrement de caractère. N'oubliez pas qu'il y a trois sacrements qui donnent un caractère. Le baptême qui donne le caractère d'enfant de Dieu, le sacrement de confirmation qui donne le caractère de soldat de Dieu, et le sacrement de l'ordre qui donne le caractère de ministre de Dieu. Donc, attention à ça, donc attention à cette préparation capitale pour apprendre aux gens à se confesser, et de même que vous devez faire des pieds et des mains pour aider vos enfants à aimer leur catéchisme, vous devez faire des pieds et des mains pour apprendre à vos enfants à aimer se confesser. Et puis après, bon, au bout d'un certain temps, il faut laisser bien sûr une certaine liberté. Alors attention, c'est un domaine un peu délicat, parce que les parents, souvent les mamans, doivent aider un peu les petits, surtout les petits, à se confesser. Bon. Parce que les petits, ils se confessent, ils ne savent pas se confesser, ils n'apprennent pas à manger les petits. C'est à mourir de rire au confessionnal, parce qu'ils accusent tous les péchés, ils commencent par les péchés des parents, en général.
Hein?
Ils commencent par les péchés des parents. J'ai vu des gamins comme ça, c'était à mourir de rire. Monsieur l'abbé, mon papa, il s'est disputé avec ma maman. Ah bon? Et mon grand frère, il a tiré les cheveux, les nattes de ma petite sœur. Je l'ai vu. Et puis mon frère, il a donné un coup de pied à sa sœur. Et j'arrête, je dis, ah bon? Et vous, mon petit? Vous avez commis les péchés? Vous êtes là pour accuser vos péchés, pas celui des papas, de maman, des frères et des sœurs. Et vous, les péchés, et vous dites comment les péchés, gars, vous dites, ah, moi, non. Mais vous savez, ma petite soeur, elle était très méchante avec maman. Ils voient tous les péchés des autres. Et donc, il faut leur apprendre d'avoir leur propre péché. Vous voyez? Alors, souvent, ce que vous pouvez très bien faire, les parents, moi, j'encourage les parents à le faire, hein, que, surtout dans certains cas particuliers, encourager les, que les mamans n'hésitent pas, parce que souvent les mamans qui s'en occupent, que les mamans n'hésitent pas à aller voir le prêtre. Vous passez un coup de téléphone au prêtre en disant, vous savez, monsieur l'abbé, mon fils, il a 5 ans, je donne un exemple. Mon fils, il a 5-6 ans, mais il a déjà un gros problème de vol. Je sais qu'il... De vol. Il vole déjà de l'argent dans mon portefeuille. Je l'ai pris plusieurs fois. Je l'ai grondé plusieurs fois, je n'ai pas l'impression qu'il comprenne. Donc, si vous voulez, est-ce que vous pouvez lui en parler au confessionnal? Vous voyez? Et donc, dans l'interrogatoire que je fais pour aider l'enfant, je vais lui parler de ça. Vous voyez? Parce que parfois, l'enfant ne s'en rend pas compte. Vous voyez? Alors, on ne se rend pas compte de certaines choses, parce qu'il y a des péchés qui sont plus difficiles à dire, et selon les âges. Il y a des péchés qui sont très difficiles à dire pour un tout petit, et des péchés qui sont relativement, qui n'ont pas de problème pour être dits pour des gens plus âgés, vous voyez. Donc, il faut préparer, nous dit Saint Pédis, les enfants à bien recevoir le sacrement de pénitence. N'oubliez pas que cette partie-là, que je suis en train de vous expliquer, de l'encyclique de Saint Pédis, donc, Acerbo Nimis, s'adresse aux curés, mais elle s'adresse aussi aux parents. C'est bien pour ça qu'il dit au début, tous les curés et tous ceux qui ont charge d'âme. Ça, c'est les parents.
Et
tous ceux qui ont charge d'âme sont les parents. Donc, c'est un texte qui s'adresse aussi aux parents, attention. Les parents doivent donc tout faire pour être sûr que leurs enfants ont au moins une heure de catéchisme par semaine, c'est ce que demande Saint-Pédis.
Et quoi?
Une heure de catéchisme par semaine pour les petits, c'est ce qu'il dit. Pendant une heure entière, ils enseigneront, d'après un petit livre de catéchisme, aux enfants des deux sexes. Qui? Tous ceux qui ont charge d'âme, donc les parents. Deuxième obligation, instruction pour leur apprendre à bien recevoir le sacrement de pénitence et la confirmation. Commencez par la pénitence. Que les enfants se soient préparés à... On voit tout de suite un enfant qui a bien été préparé. Bien été préparé. Si l'enfant était bien préparé, il va se confesser facilement. Facilement, oui. Et, alors, il faut faire attention. Là, il y a une chose qui est un peu compliquée. C'est que souvent, les parents doivent aider l'enfant. Souvent, la maman doit aider l'enfant à préparer sa confession. Mais en même temps, il faut que la maman fasse attention de respecter ce qu'on appelle le jardin secret.
Ouais.
Il y a une partie de la confession qui ne regarde pas les parents. Bon, alors, quand ils sont tout petits, il n'y a pas de problème. 5-6 ans, il n'y a pas de péché qu'ils aient commis sans que les parents... Non, il y a des péchés qui peuvent... Attention, j'ai connu des gamins de 4-5 ans qui ont fait voir ce qu'ils faisaient. Je connais, je rappelle un cas d'un gamin de 5 ans, 5 ou 6 ans.
Hein?
Je donne un exemple. Un gamin de 5 ou 6 ans, je suis en dehors de la confession, c'est pour ça que je m'en parlais. Un gamin de 5 ou 6 ans, il avait volé dans la table de nuit de sa petite sœur. Il avait volé une pièce de monnaie qu'elle avait. Elle avait reçu une pièce d'un euro, deux euros, je ne sais pas combien. Et sa petite sœur, sa grande sœur, gardait cette pièce de monnaie dans le tiroir de sa chambre. Le gamin, son frère, lui a volé l'argent. Et la sœur, évidemment, était en larmes. Ah, m'a pris mon argent. Les parents se sont doutés que c'était le petit frère qui avait fait le coup. Demande le petit frère. Le petit frère nie la chose. C'est pas vrai, j'ai jamais volé. Deuxième étape, le petit frère a accusé l'autre frère. D'abord, je suis sûr que c'est mon autre frère qui a fait le vol. Je suis sûr que c'est lui. D'abord, je l'ai vu. Oui, c'est lui qui est rentré dans la chambre de sa soeur et qui a volé la pièce. Les parents ont fait une enquête pour arriver à trouver à savoir ce qui se passait. Et en fouillant dans la chambre de celui qui avait fait le vol, ils ont fini par trouver la pièce. Et à ce moment-là, ils ont confondu l'enfant, qui a fini, après des semaines et des semaines, à reconnaître qu'effectivement, il avait volé l'argent, il avait menti, en disant qu'il n'avait pas fait, et calomnié ses frères et sœurs en accusant ses frères et sœurs d'avoir fait le coup. À 6 ans! Ça, c'est des fautes. Est-ce qu'il y a faute grave, là?
Ah oui, quand même.
Ah oui. À mon avis, il y a faute grave. Pourquoi? Parce que 1 euro pour un gamin de 6 ans, ça correspond à 100 euros pour un adulte.
Oui, c'est vrai.
À peu près. Les gens disent, ah, c'est des gamineries. Non, c'est pas des gamineries, c'est un mensonge. Il y a l'accusation du grand frère. Et là, dans les cas comme ça, il faut que les parents réagissent. Hein. D'abord, préparation à la confession. Il faut prévenir le prêtre de ce qu'il a fait. Après, moi, j'attends que le gamin s'accuse. S'il s'en accuse tout seul, c'est un bon signe. S'il s'en accuse pas, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'il a rien compris. Bon. Et puis après, il y a tout un travail d'éducation pour justement faire comprendre aux enfants la gravité du vol, la gravité du mensonge. Il ne faut pas oublier que tous les voleurs, tous, sont menteurs. Hein.
Sont
menteurs. Un voleur qui n'est pas menteur, ça n'existe pas. Par contre, tous les menteurs ne sont pas voleurs. Mais tous les menteurs sont voleurs. Tous les menteurs sont, je veux dire, c'est le contraire. Tous les voleurs sont menteurs, mais tous les menteurs ne sont pas forcément des voleurs. Mais il y a tout un travail d'éducation à faire, là. Vous voyez, dans un cas comme ça, exiger qu'il y ait des excuses qui soient données devant toute la famille, quand toute la famille a été accusée, que l'enfant vraiment demande pardon, qu'il sache demander pardon, et puis après, bon, il faut laisser le prêtre faire son travail, vous voyez. Mais ce sont des...
Oui,
des...
c'est grave.
Ah oui, c'est là, il peut y avoir... C'est grave, quand les parents me disent, vous savez, c'est pas possible pour un gamin de 6 ans de faire un péché mortel, je suis pas d'accord, hein.
Hein?
Quand des parents me disent c'est pas possible pour un gamin de 6 ans faire un péché mortel, je suis désolé, mais c'est possible malheureusement. Et maintenant encore plus avec surtout les enfants qui vont dans les écoles modernes, dans les écoles publiques. Ils savent tout, à 6 ans, ils savent tout, ils ont tout vu. Hein. Ils ont déjà été exposés à de la pornographie à 6 ans, très souvent à cause des téléphones portables. Parce qu'ils ont des gamins dans leur école qui ont un téléphone portable. Les parents sont des imbéciles, hein. Laissent des gamins de 8, 9, 10 ans avoir un téléphone portable.
Oui, c'est eux qui leur donnent, parce que ça nous permet de savoir tout le temps où est
l'enfant. Oui, si c'est simplement pour que l'enfant puisse prévenir où il est, c'est une bonne chose. Mais s'il y a une connexion sur Internet, attention aux dégâts. Une connexion sur Internet, ça veut dire que l'enfant, il va vite apprendre, où sont les sites pornographiques, etc. Et vous avez des gamins de 6-7 ans qui sont déjà exposés à des choses comme ça. Je ne vais pas donner des détails parce que c'est trop scabreux, mais je pourrais vous en donner. Des détails absolument ahurissants. C'est des mamans qui me l'ont dit, j'ai lu ça dans certaines choses, hein? j'ai lu certaines choses, des mamans qui sont tombées à la renverse en se rendant compte du travail de destruction qu'avait fait un autre enfant de l'école sur son petit qui était innocent et qui a perdu son innocence à l'école parce qu'il avait un gamin de 10 ans qui a déjà exposé la pornographie à 6 ans. Vous voyez, donc il faut faire très attention, d'où l'importance de préparer au sacrement de pénitence. La confirmation aussi. La confirmation, c'est un peu différent parce que c'est qu'une seule fois. La pénitence, par contre, c'est fréquent. Donc n'hésitez pas à pousser vos enfants à se confesser régulièrement. Il y a des enfants qui ont besoin de se confesser très régulièrement. Hein. Je dirais des adolescents qui sont en grande difficulté, grosse tentation, moment surtout de la crise d'adolescence. Je pense que les adolescents en crise d'adolescence ont besoin de se confesser toutes les semaines. Hein.
Hein?
Ils ont besoin de se confesser toutes les semaines. Bon, peut-être pas des adultes qui sont établis dans la vie. Les gens mariés, souvent, ils se confessent une fois par mois. Peut-être que ça suffit, voire au cas par cas. Mais en tout cas, les enfants, des enfants, ils se confessent très souvent. Moi, quand j'étais, mon premier poste, quand j'étais jeune prêtre, j'étais dans une école à l'Étoile du Matin, près de Strasbourg, en 79, 80, 81. Et entre autres, bon, j'étais pas directeur de l'école du tout, j'étais professeur dans cette école, l'école de la fraternité Saint-Pélis, à l'époque j'y étais, et je disais aux enfants, il y avait toutes les classes depuis les petits jusqu'à la terminale, hein, et je disais surtout aux adolescents, mon bureau vous est toujours ouvert. Même tard le soir, vous voyez la lumière dans mon bureau, c'est que j'y suis, n'hésitez pas à venir me demander la confession. Et j'avais des adolescents de 17-18 ans, hein, ils venaient faire un tour dans le couloir où il y avait mon bureau, ils voyaient la lumière dans mon bureau, ils savaient que j'étais là, ils venaient frapper discrètement, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez me confesser? Bien sûr, je confessais dans mon bureau.
Ah.
J'avais un petit confessionnal dans le bureau, je le confessais dans le bureau. Et là, qui se confessait tous les jours, hein, dans certains cas, qui avaient besoin de ça, des adolescents de 17, 18 ans, en pleine grosse tentation contre la pureté, ils avaient besoin de se confesser très, très fréquemment. Et ils ont réussi à passer la crise d'adolescence avec la grâce du bon Dieu, justement en se confessant très, très souvent. Se confessant très souvent, vous voyez. Alors, troisième point. On est presque au bout, il y a encore un quart d'heure. Donc, je répète, premier point, catéchisme une heure par semaine d'obligation pour tous ceux qui ont charge de dame à l'égard de leurs enfants. Deuxième point, préparer les enfants au sacrement de pénitence. Il ne s'agit pas de leur dire, tu vas te confesser. Les petits, il faut les préparer. Bon, et les parents adultes, les parents doivent aussi sérieusement s'occuper des adolescents. Les adolescents ont énormément besoin de se confesser. Et donc, je conseille beaucoup aux pères de famille qui m'écoutent sur Internet d'avoir le courage. Aux pères de famille qui m'écoutent sur Internet, qui ont des enfants, des garçons surtout, qui ont 17, 18 ans, hein. Arrangez-vous, obligez-vous pour faire au moins une fois par mois, allez vous promener seul avec votre gamin pendant 2 heures, sans qu'il
allez, quoi?
Vous promenez seul avec votre enfant, votre adolescent de 17, 18 ans, seul. Pour pouvoir avoir des discussions d'hommes avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de sujets que les enfants n'aborderont jamais en famille s'il y a d'autres personnes qui sont là. Par contre, s'ils sont seuls avec leur père, le père doit pouvoir commencer à poser certaines questions pour aider son enfant à passer la crise d'adolescence. Vous voyez? Et je donne toujours un conseil aux parents qui m'écoutent à propos de ça. De bien vérifier que les adolescents n'aient pas accès à Internet sans surveillance. N'aient pas accès à Internet parce qu'ils peuvent regarder n'importe quoi. La catastrophe chez les adolescents, c'est quand ils ont des téléphones portables avec accès à Internet, ce qui est le cas très très fréquemment aujourd'hui, tous les téléphones, c'est ça. Il y a des téléphones, simplement pour téléphoner, c'est tout. Téléphone que vous avez. Vous pouvez téléphoner, c'est tout. Bon, téléphone que j'ai accès à Internet, ça me permet de travailler sur mon site et de pouvoir consulter mes messages. Si l'enfant, un adolescent de 17-18 ans, a un téléphone avec accès à Internet, vous avez intérêt à surveiller très sérieusement les choses, savoir ce qu'il en fait. Et j'ai connu des parents qui avaient l'adolescent de 17-18 ans avait un ordinateur dans son bureau avec accès à Internet. Parce qu'ils en avaient besoin pour le travail scolaire, parce que presque tout se fait avec Internet maintenant, c'est le drame. Bon. Et je dis aux parents, veillez au grain. Et je leur dis, la première chose que vous devez faire, et je dis ça au père, vous voulez vérifier si votre fils a un problème ou non. Allez sur son ordinateur. Il faut que vous ayez le code. Si vous vous rendez compte que votre fils, dans son disque dur, une partie du disque dur qui est verrouillée, il y a un problème. C'est qu'il ne veut pas que vous ayez accès à cette partie-là. Et si vous devez avoir le code d'accès à l'ordinateur de votre fils, la première chose que vous devez faire en tant que père de famille, c'est aller vérifier l'historique. L'historique, c'est-à-dire tous les sites qu'il a consultés pendant le mois précédent, par exemple. Si l'historique est vide, il n'y a rien dans l'historique, et que vous savez très bien que votre fils a utilisé Internet pratiquement tous les soirs, et que le site est vide, et que la fenêtre historique ne donne rien, parce qu'elle a été vidée soigneusement, vous pouvez être certain que votre gamin a 18 ans un gros problème de pornographie déjà. Et donc il efface de pornographie. Ça veut dire qu'il efface soigneusement avant de se coucher, tous les sites par lesquels il est passé, pour être sûr que son père, qui va venir vérifier, il le sait, ce qu'il y a dans l'ordinateur, ne puisse pas trouver les sites qu'il a consultés. Par contre, si vous voyez que tout l'historique est là, que l'enfant manifestement ne cache rien, il est vraisemblablement encore innocent sur bien des choses. Mais je conseille aux parents, avec les garçons surtout, de sortir, d'aller faire une balade en forêt, ou être seul avec votre gamin, de 17-18 ans, seul pendant au moins une ou deux heures par mois, minimum, peut-être plus souvent si vous avez le temps, et parlez avec lui. Faites parler l'enfant. Et que votre jeune ait courage de parler. Il va commencer, s'il aime son père, et si son père le se rend compte, tu sais, je sais ce que c'est que la crise d'adolescent, parce que je suis passé par là moi-même, Bon, je sais qu'on n'est pas très malin là-dessus, qu'il y a beaucoup de tentations d'impureté. Est-ce que je peux t'aider en quelque chose ? Et l'enfant va je peux t'aider en quelque chose. L'enfant va se sentir en confiance, va commencer à parler certaines choses à son père. Pareil pour les filles, hein. Pareil pour les filles, mais là c'est la maman qui doit le faire. La maman doit se retrouver de temps en temps seule avec sa grande fille de 17-18 ans pour pouvoir veiller un petit peu au grain. Veiller un peu au grain, vous voyez. Alors, troisième point de Saint Pédis. De même avec un soin très spécial, tous les jours de carême, et s'il en est besoin d'autres jours, tous les jours de carême. Et s'il en est besoin d'autres jours encore après les fêtes de Pâques, ils disposeront les jeunes garçons et les jeunes filles par des leçons, des exhortations convenables à s'approcher saintement pour la première fois de la Sainte Table. Donc préparation confession, préparation à la communion. Donc aidez vos enfants à aimer la confession, aimer se confesser, aimer le confessionnal et aimer aussi communier souvent. Bon, alors là attention. Encore une fois, il faut aider. Vous ne pouvez pas rentrer dans le jardin secret. Bon. Par exemple, je donne un exemple de ce que les parents n'ont jamais le droit de faire. Vous avez un enfant qui a 17 ans, 18 ans. Vous remarquez que cet enfant ne communie plus depuis un certain temps. Bon. Une maman, un papa, c'est bizarre, mon fils, il a 17 ans, 18 ans, ça fait déjà 2 mois, il ne communie plus le dimanche. Il va à la messe le dimanche, il ne communie plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez pousser votre enfant, le prendre à part et dire, écoute, tu as peut-être besoin, tu vois que tu ne communies plus depuis un certain temps. Est-ce que je peux t'aider en quelque chose ? N'oublie pas le chemin du confessionnal. Bon. Mais il y a des questions que vous n'avez pas le droit en tant que parent de poser. Vous ne pouvez pas aller voir votre gamin de 17 ans ou 18 ans et lui dire, pourquoi tu ne communies pas ? Pourquoi tu ne communies pas ? Parce que ça ne vous regarde pas. Là, c'est le domaine du prêtre, c'est le jardin secret. L'enfant n'a pas... L'adolescent de 17 à 18 ans, strictement parlant, n'a pas à vous expliquer les raisons pour lesquelles il ne communie pas. Vraisemblablement, s'il ne communie pas, c'est qu'il ne peut pas communier. Alors, parfois, l'enfant, le jeune va sortir là en disant « L'abbé m'a dit que je ne pouvais pas communier actuellement. Hein? » L'abbé m'a dit que je ne pouvais pas communier actuellement. Par exemple, un enfant qui est un jeune de 17-18 ans, et qui est addict, par exemple, à, je sais pas moi, à la pornographie, ou qui a déjà une affaire suivie avec une jeune fille, qui voit régulièrement avec laquelle il fait des grosses bêtises, et qui veut pas changer de vie, il peut pas communier. Il peut même pas recevoir l'absolution. Donc il change pas de vie. J'ai pas le droit de donner l'absolution, moi, en tant que prêtre, à quelqu'un qui veut pas changer de vie. Hein, parce que le but, c'est d'aider les gens à aller au ciel. Imaginez un jeune qui me dit, moi j'ai une petite amie, monsieur l'abbé, on se voit tous les samedis soirs, on fait des grosses bêtises tous les samedis soirs. Est-ce que vous regrettez votre péché ? Bon, monsieur l'abbé, ben, je continue comme ça. Vous continuez comme ça, mais je ne peux pas vous donner absolution. Il faut sortir de là, il faut arrêter de voir cette fille. Vous êtes beaucoup trop jeune, vous n'êtes pas marié avec elle, vous avez le droit d'avoir une relation physique avec elle. Si vous êtes marié, si elle est votre épouse, elle n'est pas votre épouse, vous n'avez pas à la toucher. En tout cas, certainement pas comme ça. Bon, et vous n'avez pas le droit de faire ces actes qui sont réservés à des gens mariés. Si le jeune continue de pécher constamment sur le même sujet, et manifestement ne fait aucun effort pour se sortir de là, il ne peut plus recevoir l'absolution, donc il ne peut pas communier. Il ne peut pas communier. Et je suis obligé de lui dire, écoutez, pour le moment, je vous demande d'arrêter de communier, parce que vous n'êtes pas en état. Il faut retrouver d'abord l'état de grâce. Et une des choses aussi pour lesquelles, c'est un résumé de tout ce que je viens de vous dire, une chose aussi extrêmement importante, c'est pousser vos enfants à venir faire les exercices de Saint-Ignace avant qu'ils commencent l'université. Mais non, pensez-vous, à 18 ans, les jeunes sont parfaitement capables de suivre les exercices de Saint-Ignace en 5 jours.
À
18 ans, oui. Oui, 18 ans. Les filles, c'est 17 ans, 16 ans même pas. Ça dépend, moi j'ai eu un cas aux États-Unis, à New York, d'une fille de 10 ans et demi qui a fait les exercices et qui était suffisamment mûre. Elle faisait 1m80, la fille, à 10 ans et demi, et elle ressemblait à une fille de 18 ans. Elle avait toutes les tentations d'une fille de 18 ans, elle avait 10 ans et demi, la pauvre. C'est une vie impossible pour la pauvre gamine. Bon, et donc je conseille beaucoup, beaucoup aux parents, aider vos enfants à venir faire les exercices de Saint-Ignace juste après le bac.
Après le bac.
Souvent avant, c'est encore un peu tôt. Ça dépend voir au cas par cas. Les jeunes filles peuvent, fin première, déjà suivre les exercices de Saint-Ignace. les garçons souvent sont pas encore assez mûrs. Mais dès qu'ils ont passé le bac, avant qu'ils partent à l'université, il a fallu faire les exercices de Saint-Ignace en 5 jours, sur la méthode du Père Vallée. Et vous pouvez leur sauver la vie, hein, leur sauver l'âme. Hein? Vous pouvez leur sauver la vie, leur sauver l'âme surtout. Et les aider à retrouver l'importance de la confession, faire une bonne confession générale, etc. Bon, ceci dit, à propos des exercices de Saint-Ignace que je prêche, donc j'ai 8 retraites en 2025. La liste est sur la page d'accueil du site dame-marie.net, mon site internet. Je suis plein maintenant pour toutes les retraites de 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est plein. J'ai encore un peu de place, quelques places, pour la retraite numéro 7 et numéro 8, les deux retraites d'octobre. J'ai plus de place pour les autres retraites. Je suis désolé, mais je peux pas tout faire. Priez pour que je puisse, c'est un gros projet, mais ça je pense que c'est extrêmement important, et la vitesse avec laquelle sont remplies les retraites, j'ai pratiquement rempli toutes les retraites 2025, on est encore en 2024, je ne sais pas si vous voyez. Mes retraites de 2025 sont déjà pratiquement toutes pleines, alors qu'on est encore en 2024, et je commence la première retraite de 2025 au mois de mai. Tout est plein déjà. Parce que j'ai malheureusement le gîte que j'utilise à l'Edergue, le gîte que j'utilise pour prêcher les retraites à l'Edergue, près d'ici, est très bien. Il n'y a que 6 chambres, donc je peux prendre que 6 personnes. Donc le projet, il faut absolument qu'on puisse réaliser ce projet. Je voudrais qu'on puisse commencer, maintenant qu'on a terminé la chapelle qui est magnifique, la chapelle d'Amarie, je tiens à remercier tous les bienfaiteurs qui nous ont aidés, on n'a pas de dette, on a tout payé, il y a encore un drain à mettre et le parking à faire, mais sinon tout est payé avec la grâce du bon Dieu, je remercie tous les gros bienfaiteurs et tous les petits bienfaiteurs et tous les moyens bienfaiteurs et tous les bienfaiteurs en général qui nous ont permis de faire tout ça. Maintenant, deuxième projet, c'est faire une maison de retraite à côté de la retraite, à côté de la chapelle. On a un projet de faire une maison de retraite de 15 chambres.
Combien ?
15 chambres. 15 chambres, toutes simples. Ça coûte cher ? Ben oui, ça coûte cher. Bon, il faut trouver l'argent. Je voudrais faire 15 chambres là-bas, toutes simples, avec un bloc douche, un bloc toilette en bas, pour avoir un minimum de confort quand même. Pas d'eau dans les chambres, ça coûterait beaucoup trop cher. Des chambres toutes simples, 15 chambres, avec la chapelle juste à côté, la salle de conférence en bas, sous la chapelle, on peut faire là aussi les repas de midi, le repas de matin, midi et soir, on peut tout organiser comme ça, avec la grâce du bon Dieu, pour pouvoir prêcher les exercices de Saint-Ignace. Et puis à côté, on voudrait joindre à ce projet de 15 chambres, on voudrait faire à côté un petit appartement, mais pour vous, pour moi. Ça, on aura tout sur place. Il y aura la chapelle, la maison de retraite et un appartement pour moi et pour vous. Alors, la chapelle, ça nous a coûté quand même, avec la grâce du bon Dieu, tout a été payé grâce aux bienfaiteurs. Sachez que les gens me demandent toujours combien il faut pour à peu près faire une maison de retraite de 15 chambres, plus un appartement à côté, il faut compter autour de 100 000. Hein.
Combien ?
100 000 euros, autour de 100 000 euros. J'ai demandé ça à Andrew qui connaît bien les prix des choses, mais il faut compter à peu près 100 000. Bon, les 100 000 euros, je ne les ai pas. 100 000 euros, je ne les ai pas. Donc, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui m'écoute sur Internet et qui ne sait pas quoi faire, il y a trop d'argent, je ne sais pas quoi en faire, vous pouvez nous aider. Et si je reçois, de même que je suis un conseil que Mgr Lefebvre nous donnait. Mgr Lefebvre nous donnait comme conseil pour les œuvres. Je disais, vous ne lancez pas dans la construction de quelque chose d'important comme une chapelle, une maison de retraite, sans avoir la moitié de la somme nécessaire déjà en banque avant de commencer. Et donc, il faudrait qu'on trouve 50 000. Bon, on va voir. Si le bon Dieu le veut, ça se fera. Si le bon Dieu ne le permet pas, que sa volonté soit faite. Mais ça, c'est important, vous voyez. Donc, vous voyez, ce sont les trois points. Les trois points importants là, donc les trois premiers points sont importants. Donc je répète, une heure de catéchisme par semaine dans Mont Saint-Pédis. Par semaine.
À partir de quel âge ?
Le catéchisme, elle doit commencer. Il faut adapter ça à l'âge des enfants, mais dès 3 ans, la maman peut commencer un petit minimum à apprendre le signe de croix. Apprendre à faire une génuflexion. À visiter la chapelle pour expliquer les différentes pièces de la chapelle, leur faire faire la prière du matin, la prière du soir, leur apprendre Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gloire au Père, même à 3-4 ans. Et puis après, on augmente petit à petit. Bon, on peut pas demander des tas de choses à des enfants de de 3-4 ans, quand vous voyez ce que Sapidis demandait en préparation première communion en 1910, ça laisse rêveur, hein. Sapidis, moi j'ai vu sur un des catéchismes de Sapidis, il y a une première notion pour préparation première communion. En préparation première communion, Sapidis demandait certaines prières en latin qu'à 71 ans, je ne sais pas par cœur, en latin. Sapidis s'est demandé par cœur en 1910. C'était une prière. Que je ne sais pas par cœur, par exemple, pour des profondis en latin, je me fiche dedans régulièrement. J'arrive à le dire avec d'autres personnes, je lui dis tout ça, je me fiche dedans. Je ne suis pas fier, mais c'est comme ça. Prière pour les morts. Bon. Et si mes souvenirs sont exacts, c'était une des prières que Saint-Bénis demandait aux enfants de 6-7 ans. Parce qu'il parlait aux enfants de 6-7 ans de 1910. Les enfants de 6-7 ans de 1910 avaient l'intelligence d'un enfant de 12 ans aujourd'hui. Parce qu'ils n'étaient pas contaminés par les téléphones portables, les Internet, la télévision, tous ces machins-là. Ils étaient bien plus intelligents. Hein. Quand on voit le niveau des... le niveau d'un... C'est très intéressant de chercher un livre de certificat d'études, d'examen de certificat d'études, c'est-à-dire à l'époque, c'était quoi, certificat d'études de votre temps, c'était quoi, 12-13 ans, 12 ans. C'était la fin, c'était à peu près, dans les campagnes, c'était 12 ans, 12, à peu près, certificat d'études, c'était 12 ans. Le niveau de certificat d'études, par exemple, entre les deux guerres. Trouvez-vous un bouquin avec les examens de certificat d'études, par exemple, des années 1925. Vous verrez que le niveau de certificat d'études de 1925 pour des gamins en fin de primaire correspond aujourd'hui à une classe de seconde, pratiquement. À une classe de seconde. Tellement les niveaux ont baissé. Les professeurs qui sont dans les écoles vous diront, on arrive à avoir des gamins qui arrivent à 18 ans au bac qui sont complètement inalphabètes, qui sont incapables d'écrire une ligne sans faute.
Ça, oui.
Incapable d'écrire une ligne sans faute. Moi, j'ai vu des copies d'adolescents de 17 ans qui écrivaient une dictée de 10 lignes avec l'écriture d'un gamin de 6 ans, des années d'il y a 50 ans. Vous voyez ? Donc là, il y a tout un travail d'éducation à faire, et ce travail est à faire sur le plan naturel, parce que la surnature détruit pas la nature, la grâce détruit pas la nature. Hein. Il y a aussi tout un travail sur le par cœur, l'exercice de la mémoire, l'exercice de l'intelligence. Tout ça, c'est très important. Apprendre aux enfants à écrire, par exemple. Pourquoi les enfants savent plus écrire? Parce qu'on leur donne des stylos maintenant. Avant, moi, j'ai appris à écrire avec un encrier, une plume qu'on trempait dans l'encrier. On la faisait avec les pleins, les déliés. Je me rappelle, on se mettait partout. J'avais de la langue partout sur les doigts. Mais on apprenait à écrire comme ça. On apprenait à écrire correctement. On était capable de faire une dictée sans faute en arrivant déjà en classe de troisième, quatrième, quoi. Et maintenant, ils n'y arrivent plus. Et les professeurs nous disent, monsieur, c'est impossible parce que tous les enfants sont sur ChatGPT. ChatGPT, c'est les programmes d'intelligence artificielle qui font tout le travail des gamins. Les gamins, ils ont une rédaction à faire sur mes vacances avec mes parents pendant l'été dernier. Le gamin va sur son ordinateur, il met en marche l'intelligence artificielle de l'ordinateur. Deux pages de texte sur les vacances avec mes parents, il y a pendant l'été dernier. En l'espace de 10 secondes, il a le texte devant lui.
C'est pas ses vacances à lui.
Fait par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Et puis il y a le texte. Et les professeurs se rendent compte tout de suite, parce qu'il n'y a pas une seule faute d'orthographe. Il n'y a pas une seule faute d'orthographe. Et ils nous disent, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a que l'intelligence artificielle qui fait ça, parce qu'elle fait tellement de progrès l'intelligence artificielle que les intelligences artificielles ne font plus de faute d'orthographe. Par contre, les gamins en font parfait, plein, vous voyez. Alors, attention à tout ça, vous voyez. Donc, on reprendra tout ça la prochaine fois, je m'excuse d'aller doucement sur cette partie-là, mais il est très important, je répète les trois premiers points. Devoir des parents de donner ou de faire donner une heure de catéchisme chaque semaine aux enfants pour les catéchismes. Et ça, c'est valable aussi pour les adultes, et c'est valable aussi, à mon avis, pour les grands adolescents qui ont besoin de connaître leur foi. Deuxièmement, préparer les enfants au sacrement de pénitence. Troisièmement, préparer les
quoi ?
Sacrement de pénitence. Troisièmement, préparer les enfants à la Sainte Communion. Voilà. Donc, on en est là. Aujourd'hui, on en est 4, je crois. Alors, attention, je répète ce que je vous ai déjà dit. Donc, il n'y aura pas de cours mercredi prochain. Prochain cours, si Dieu veut, le 11 décembre. On finit par une prière. C'est pas le 11 décembre. Attendez.
11 janvier.
C'est pas le 11 décembre. Ça doit être le...
On est en décembre.
Le 11, oui, non, mais c'est pas le 11 décembre, j'ai dit une bêtise. Donc, c'est la semaine prochaine, je ne suis pas là. Ça sera la semaine d'après. Donc, je pense que ça sera le 18 décembre, prochain cours. Donc, le 11 décembre, il n'y a pas de cours. C'est ça, pas de cours le 11, je me trompe. C'est ça. Il n'y a pas de cours le 11 décembre. Mercredi prochain, pas de cours. Donc, le prochain cours, ça sera le mercredi 18 décembre. Voilà, on finit par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pie X,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
Saint quoi ?
Saint Thomas d'Aquin. Priez pour nous, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.